dissonances.
Aujourd'hui, histoire de voir les choses autrement, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Sainte-Afrique. Cette émission de Dissonance est consacrée à un parcours de vie atypique, celui de Jean Poli, instituteur qui a commencé à Trappes, en banlieue parisienne, pour terminer sa carrière dans un tout petit village du Lot. Un choix de vie qui a induit une réflexion passionnante sur l'essentiel et l'accessoire, le moderne et l'obsolète. Mais avant de l'écouter, c'est Elsa Dauphin qui va ouvrir cette nouvelle saison de Dissonance avec sa chronique poélytique mensuelle.
Écriture sainte. On n'a jamais autant parlé de religion. Certes, me direz-vous, l'actualité s'y prête. Mais tout de même, ça commence à faire beaucoup, et moi, la religion, sans vouloir fâcher personne, ça m'emmerde. On a beau nous répéter que Dieu est amour, les trois religions monothéistes n'ont jamais fait dans la dentelle. Chez les chrétiens, c'est une sacrée pagaille. Les catholiques ont brûlé joyeusement cathares, vaudois et protestants. Ces mêmes protestants ne furent pas en reste avec les catholiques et trouvèrent même le moyen de se friter grave entre calvinistes et luthériens. Chez les musulmans, ça s'étripe entre chiites et sunnites, et les juifs orthodoxes font souvent preuve de la plus grande intolérance. Je ne résiste pas à vous donner un dernier exemple de la bonté de Dieu. Ça se passe en 1945. L'avion qui largua la bombe atomique sur Hiroshima fut béni par l'aumônier militaire en ces termes. Que les hommes qui s'envolent cette nuit soient en sécurité et qu'ils nous reviennent en vie. Nous continuerons, droit devant, confiant en toi, mon Dieu, sachant que nous sommes sous ta protection, pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. La bénédiction fut efficace, 150 000 morts et 80 000 blessés d'un seul, youpi. Et quand on sait que certains prétendants à l'élection du plus gros égo vont nous bassiner avec les racines chrétiennes de la France, on est en droit de s'inquiéter. Alors je me disais qu'on pourrait réconcilier tout ce petit monde sous le haut patronage de Jacques Prévert, dont les Écritures saintes valent bien la Bible, le Coran ou la Torah. Écriture sainte. À Paul et Virginie, au tenon et à la mortaise, à la chèvre et au chou, à la paille et à la poutre, au-dessus et au-dessous du panier, à Saint-Pierre et Miquelon, à la une et à la deux, à la mygale et à la fourmi, aux istes et aux estes, à votre santé et à la mienne, au bien et au mal, à Dieu et au diable, à Laurel et à Hardy. Dieu est un grand lapin. Il habite plus haut que la terre, tout en haut là-haut dans les cieux, dans son grand terrier nuageux. Le diable est un grand lièvre rouge avec un fusil tout gris pour tirer dans l'ombre de la nuit. Mais Dieu est un gros lapin. Il a l'oreille du monde, il connaît la musique. Une fois, il a eu un grand fils, un joyeux lapin, et il l'a envoyé sur la terre pour sauver les lapins d'en bas. Et son fils a été rapidement liquidé et on l'a appelé Civé. Évidemment, il a passé de bien mauvais moments. Et puis il a repris du poil de la bête. Il s'est remis les os en place, les reins, le râble, la tête et tout, et il a fait un bond prodigieux. Et le voilà maintenant rue de lapin, bondissant dans les cieux, à la droite et à la gauche, du grand lapin, tout puissant. Jacques Prévert, Écriture sainte, amen.
Jean Poli est né à un métier, celui d'instituteur, un mot auquel il tient. Parti de Paris, passant par les Yvelines, il a décidé de revenir sur ses terres ancestrales du Lot, y revenir pour enseigner dans une petite, toute petite école, car c'est là, dit-il, qu'il faut sans cesse inventer, être créatif, se mettre en réseau avec d'autres écoles, avec les parents, pour arriver à faire que les enfants des petites écoles aient les mêmes chances que ceux des villes. Et c'est un atout que d'apprendre à plusieurs, que d'avancer ensemble, quel que soit son âge. Jean Poli, fort de son expérience, en est persuadé. La petite école est une chance. Aussi, son sang n'a fait qu'un tour quand il a entendu Mme Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, déclarer en 2014 que d'ici 2017, il faudrait fermer les écoles de 1 à 2 classes, car c'est bien de cela qu'il s'agit si on gratte le vernis du projet. Alors que les 7 autres départements de Midi-Pyrénées ont déjà vu la volonté de la ministre commencer à se mettre en place, cette année, c'est au tour de l'Aveyron, et notamment du Sud-Aveyron, partie du département qui compte le plus grand nombre d'écoles à classe unique. La convention de mise en œuvre des fermetures des petites écoles en Aveyron, appelée le protocole ruralité, se met lentement et sournoisement en place.
Aujourd'hui, pendant une heure, nous découvrirons un magnifique parcours de vie où la passion en est le moteur.
Jean-Pauli nous parlera avec amour de son métier et de ses combats.
Jean-Pauli, c'est une humanité à entendre. C'est des textes à écouter et c'est aussi une voix et une plume qu'il met au service de ses poèmes mis en musique par lui et ses amis.
D'ailleurs, pour commencer, écoutons une de ses créations, Petite Prune, chantée par Annick Peset et Jean-Pauli sur une musique d'Éric Ardouin.
T'aurais pas dû, la petite prune, le pouce café. Tu dis que tu as un peu bu, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Le grisou, la pomponnette, le bisou sur la hunette. La fleur ouverte en dedans, la fleur qui te donne envie. Tu dis que j'aurais pas dû, la petite prune, après souper. Tu dis que j'ai un peu trop bu, que j'ai manqué de tituber. Le tripou dans la casquette, vent debout dans la conquête. La valse offerte en avant, la valse qui te met l'eau de vie. La fleur ouverte en dedans, la fleur de ses 30 ans, la fleur aux dents. La valse offerte en avant, la valse chaud devant, la valse au vent. La rosette est arrosée, la grisette est grisée, la musette amusée. Avanti, popolo, separati, mon polo. Quand l'accordéon fait pas dans la dentelle. Quand on s'en fout, quand on a un petit coup dans l'aile. La traînée des yeux qui brille, la tournée des corps sur la piste. L'envolée des pas qui glissent et qui vous mène au bord du précipice. Je dis que t'aurais pas dû, la petite brune de la soirée. Je dis que tu as un peu bu, tout ce que je dis c'est pour de vrai. Le bignou, la gigolette, le froufrou dans l'arbalète. La fleur ouverte en dedans, la fleur qui t'a fait envie. Je dis que t'aurais pas dû, la petite brune, dû l'embrasser. Je dis que tu as un peu bu, tu m'as rien dit, tu m'as laissé. Le caillou, la baïonnette, le dégoût dans la défaite. La valse offerte en avant, la valse qui t'a mis l'eau de vie. La fleur ouverte en dedans, la fleur de ses 30 ans, la fleur aux dents. La valse offerte en avant, la valse chaud devant, la valse au vent. La rosette est arrosée, la grisette est grisée, la musette amusée. Allons-y, allons-y, c'est parti mon polo. Quand l'accordéon fait pas dans la dentelle. Quand on s'en fout, quand on a un petit coup dans l'air. La traînée des yeux qui brille, la tournée des corps sur la piste. L'envolée des pas qui glissent et qui vous mène au bord du précipice. Je dis qu'on n'aurait pas dû la petite prune après souper.
Dissonance
avec Jean-Pauli sur Radio Saint-Afrique.
Donc je m'appelle Jean-Pauli et j'étais instituteur, donc en tenant à ce mot d'instituteur d'ailleurs, jusqu'à il y a 5 ans. J'ai eu la chance de partir à 55 ans. Donc l'école, ce métier occupe toujours pas mal de place, même si on veut s'en débarrasser quand on part à la retraite un petit peu, mais ça, c'est un métier où j'étais beaucoup, très engagé. Et en fait, ça laisse des traces encore, même si quelquefois il faut s'en reposer un peu quand même. Alors en fait, comment je suis devenu instit? Il y a deux façons de raconter les choses. Il y a la façon très prosaïque, c'est comme un accident de vie. Et puis en même temps, à y réfléchir, en fait, c'est amusant parce qu'il y a plein de signes avant-coureurs dans mon enfance, dans ma vie, qui faisaient que finalement j'ai fait ce beau métier. J'ai vécu en région parisienne, donc dans les Yvelines, et avec un père qui était originaire du Lot, qui est monté comme fonctionnaire à Paris, et une mère née à Toulouse qui était prof. Voilà. L'aspect racine est important parce que justement dans le choix d'être instit, il y avait dans ces signes avant-coureurs, il y avait ce côté-là. Parce que pour moi, l'image d'instit, ça a toujours été l'instit de campagne, même si je n'ai pas commencé comme instit de campagne. Je me souviens d'un documentaire télé, sans doute dans les années 60, je devais avoir 14-15 ans, qui était le portrait d'un instit en montagne, d'un instit de classe unique. Et je revois ça presque comme si c'était hier. J'ai eu une impression extraordinaire de liberté. C'était un gars qui avait une trentaine d'années, qui était ainsi dans classe unique en montagne. Je me souviens de la montagne, de la neige. Et il portait une chemise à carreaux, un peu comme les bûcherons canadiens. Et dans les années 60, cette image à la fois de connaissance, de liberté, j'ai trouvé magnifique. Et en fait, ça me renvoyait cette envie sous-jacente que j'avais gamin de revenir vivre dans le Lot où étaient mes grands-parents. Et je pense que c'est quelque chose qui était très fort. Quoi. Le chemin que j'ai fait après est presque un destin, en fait. Voilà. Donc cette image d'instit, pour moi, elle est liée à ça. Elle est liée à la campagne. Parce que toute la connaissance est autour de l'école. J'y ai repensé d'ailleurs il n'y a pas longtemps à ça. C'est quand même extraordinaire parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé à la fin de ma vie d'instit. C'est-à-dire que on a tout autour. On a tout, on a les insectes, on sort de l'école dans les insectes, on a la rivière, on a la géologie, on a les dolmens, on a le château Renaissance d'acier. À la fin de ma carrière, je partais en vélo avec les gamins et on avait tout là. Bon, dans l'école concentrée d'aujourd'hui, qui prépare, ces mêmes gamins de la campagne, en fait, ils vont voir les insectes sur une vidéo à la salle informatique. Il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans, d'éloigner le cadre scolaire de la vie elle-même, des réalités et de la connaissance. En fait, la connaissance, elle est là juste à côté. Et l'instit, pour moi, c'était ça. C'était cette espèce d'utopie de quelqu'un qui vivait au milieu de la nature, au milieu des groupes humains, au milieu des machines aussi, des machines agricoles, des machines de l'usine d'à côté, et qui était capable de faire partager aux gamins ces connaissances-là, qui étaient juste là. Alors j'ai commencé en fait en ville, j'ai commencé à Trappes.
Dans les Yvelines.
Dans les Yvelines, voilà. En banlieue, j'ai beaucoup appris. Et en même temps, enfin, j'ai un peu une théorie là-dessus, j'ai mis du temps à être vraiment instit. Ma théorie, vaut ce qu'elle vaut, mais c'est que il faut arriver à se débarrasser de son enfance. C'est-à-dire qu'on a 19-20 ans, ou 20-21 ans, on est nommé dans une classe, on est un gamin en fait. Et j'ai eu l'impression de devenir instit quand j'ai eu des enfants moi-même. Où finalement j'ai mis la distance qu'il fallait avec l'enfance. Voilà. Je ne sais pas si ça vaut, mais en tout cas pour moi, ça, je crois que c'était vrai. Et j'ai mis pas mal de temps à être vraiment instit, bien dans ce métier. J'ai été pendant 4 ans instit pour non-francophones, pour enfants non-francophones. Donc je pense que c'était un choix que j'avais fait justement qui était lié à l'envie d'être utile socialement et puis à un certain engagement politique en fait. En plus, j'étais très actif sur le quartier, c'est un quartier où il y a pas mal d'immigrés, j'étais très actif sur le quartier où j'habitais le quartier, j'habitais le logement de fonction de l'école, où finalement, je faisais le lien beaucoup entre l'école, la vie du quartier, le fait d'avoir des enfants non francophones à qui j'apprenais le français, tout ça. C'était très important pour moi à ce moment-là, très, très, très riche. Et j'ai connu Isabelle, donc, à Trappes.
Ta compagne.
Voilà. Depuis 32 ans maintenant, ou plus que ça. Bon. Et qui était un site aussi à Trappes. Et donc on est arrivé dans le village comme ça, jeune couple. Et là vraiment, ça a été extraordinaire. C'était un village, on s'étonne un peu de penser qu'il y a un monde rural dans les Yvelines. Enfin, je pense que maintenant il a pris un peu. Ça s'est pas mal urbanisé, mais à l'époque, c'était un village de 300-400 habitants, pas plus grand qu'un village du Lot, donc une école à deux classes. C'était assez intéressant, c'était vraiment très intéressant. Alors, donc là, on a habité le logement de fonction. On est resté 14 ans à cet endroit-là. Hein. Et ça a été notre aventure de couple, de famille. Les enfants sont nés dans l'école, nos enfants, nos trois enfants. Donc c'était un engagement presque quasi quotidien quoi, d'enseignants. Donc là, on s'est énormément investi. Je sais pas. Bon, mais c'était, on ne comptait pas. C'était notre vie, quoi. Voilà. Je me souviens de préparer la classe le dimanche soir en chaussons. Je descendais dans la salle de classe depuis le logement de fonction. C'était une histoire à la Pagnole, en fait. C'était une espèce d'image d'Épinal et moi que j'ai adoré, en fait, dont je rêvais forcément. Et on est resté 14 ans donc là-bas.
Jean Poli sur Radio Sainte-Afrique.
Un jour, je me souviens, Isabelle m'appelle à midi, on mangeait à midi à la maison, et il y a un reportage à la télé sur la classe unique de Moussac, dans la Vienne, la classe de Bernard Collot, qui était un personnage du mouvement Freinet, que je connaissais pas du tout à l'époque. Et Isabelle m'appelle en disant « Viens voir, c'est exactement ça. » C'est exactement ça qu'on voulait faire, en fait. C'était une classe unique où la vie était rentrée dans la classe totalement. Et enfin, ce qu'on envoyait à la télé, en tout cas, dans le reportage, et qui s'enrichissait énormément du mélange des âges entre les petits et les grands. Ce qu'on sentait confusément dans ce qu'on faisait, moi j'avais à l'époque trois niveaux dans ma classe, ou quatre niveaux selon les années. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on est jeune incite et pas débrouillé tout ça, on essaye de séparer le plus possible les niveaux, en disant les CM2 doivent regarder dans un sens, les CE2 dans un autre, les CM1. Et on comprend pas qu'il y a une dynamique extraordinaire à faire travailler tout le monde ensemble, petits et grands. Comme dans une famille où finalement d'une fête familiale, les petits et les grands ils sont ensemble, quoi. C'est ça la vie. Voilà. Et on voyait ça du reportage sur la classe de Moussac de Bernard Collot.
C'était en quelle année?
Alors, donc, c'est les années 90.
90. Et c'est à cette époque-là que tu es descendu dans le Lot, alors?
Alors, on avait j'avais ces attaches familiales. Et à la mort de ma grand-mère, on a racheté, ou hérité de la maison de mes grands-parents. Et donc, avec ce projet de venir ici. Voilà, donc on est descendu en 1999. Tous les deux nommés dans le Lot. Voilà. C'était une continuité d'implantation rurale, en fait, peut-être plus marquée, parce que le Lot a une implantation rurale beaucoup plus marquée que les Yvelines, même le fin fond des Yvelines.
De suite, une école rurale, une classe unique,
alors,
une petite
non,
école,
non,
une petite structure.
J'ai été directeur d'école à Livernon, dans le village où on habite, qui était le village donc de ma famille. Et puis, quelques années après, comme une. Alors, qui était un village qui grossissait, donc c'était devenu une école. Alors, je sais, je crois que maintenant il y a 5 ou 6 classes. Mais à l'époque, on était passé de 3 à 4 classes. Une école qui grossissait, qui est devenue une école modèle de ville, où le mélange des âges était dissous, en fait, disparaissait. Et en fait, j'ai fini ma carrière pendant 6 ans à la petite école de Rayrevigne, qui était une école de cycle 3, donc avec 3 niveaux. Tout seul, qui était un petit paradis, il y avait beaucoup de place. Souvent dans les écoles rurales, d'ailleurs, il y a beaucoup de place parce que là, il y avait eu 2 classes à une époque, et donc j'avais énormément de place, et ce qui me permettait de réaliser un petit peu ce que j'avais toujours rêvé de faire, c'est-à-dire le système à la fois de lieux collectifs et puis de lieux d'ateliers où les enfants pouvaient travailler sur des projets particuliers.
C'est un parcours atypique parce que souvent, quand on est institut, on pense faire le contraire. On s'imagine commencer dans une petite structure et puis finir dans une grosse école de ville,
exactement,
la consécration.
Ouais. Et toi, c'est ce que m'avait dit un inspecteur quand j'étais dans les Yvelines, dans cette école à deux classes. Il m'avait dit « Monsieur Poli, vous commencez bien votre carrière, vous allez finir directeur d'école de centre-ville ou d'école de préfecture. » C'était et là c'est une fierté, par contre, d'avoir terminé ma carrière à Rayrevigne, c'est vraiment une fierté, presque un bâton de maréchal. J'étais très heureux à mon départ à la retraite de le faire avec les gens du village, avec les liens qui étaient tissés. C'est ça qui est aussi très fort, les liens qu'on peut tisser dans une petite collectivité avec les parents, avec les élèves et avec les amis, tous les amis de l'école autour, quoi.
j'ai une Karman. Ta voiture préférée, Pacific Boulevard. Deux semaines à LA. Pour faire mes voix, tu te serais moqué de moi. Ce matin, j'irais bien surfer plutôt que de chanter. Mais tu es parti. Oui, tu es parti. Ça fait bientôt 20 ans. Mais encore aujourd'hui, quand j'entends un disque, j'ai envie de t'appeler pour avoir ton avis, même si je le connais. Ce matin, j'ai envie de relire les souffrances du jeune Werther, car tu es parti. Oui, tu es parti. Heureusement, tu ne vois pas comment je joue de la guitare. Ça t'énerverait sûrement, mais tu sais, je fais de mon mieux. J'espère que tu es fier de moi, même si tu le dirais pas. De toute façon, t'es toujours là, même si ça ne s'explique pas. Même si ça ne s'explique pas.
Dissonance.
Jean Poli sur Radio Centrafrique.
Tu étais tout seul avec ta classe et tes élèves, mais en fait, relié avec plein d'autres collègues, des parents, des élus, mais aussi tous tes réseaux pédagogiques, tous tes liens pédagogiques, Marel.
Alors oui, alors, l'histoire de Marel est intéressante. L'histoire de Marel correspond donc aux années 90, au mouvement pour la promotion des petites écoles. Et ça correspondait aussi à l'arrivée des nouvelles technologies en classe. Et en fait, ce qui est un paradoxe pour les gens qui ne connaissent mal l'école rurale, c'est que c'est l'école rurale qui s'est le mieux saisie, à l'époque, certainement, des nouvelles technologies, de façon intelligente. C'est-à-dire que ça permettait, alors, donc la création du réseau Marel permettait de regrouper une centaine de classes dans ce réseau, et grâce aux nouvelles technologies, d'être en correspondance immédiate et quotidienne avec plein de classes en France. Ce qui fait que, par exemple, je me souviens d'une petite classe du Vercors qui s'appelait Rancurel. Je crois qu'il y avait 9 élèves, mais ces 9 élèves de classe unique de Rancurel, ils vivaient dans une collectivité d'enfants qui était de plusieurs milliers d'enfants, et ils étaient certainement moins isolés que les CM2 enfermés entre quatre murs de l'école de la préfecture. C'est très important de dire ça parce que actuellement on assiste à un massacre de l'école rurale, de la petite école. Il n'y a pas que l'école rurale, il y a des petites écoles de quartier, au nom de la modernité. Et c'est la méconnaissance ou alors l'hypocrisie de l'institution ou des gens de l'institution, la méconnaissance des réalités, qui fait dire que c'est plus moderne d'être dans une grosse école concentrée. Alors, je ne veux pas dire que toutes les écoles rurales, toutes les classes uniques, toutes ces petites écoles étaient des modèles pédagogiques, mais il y avait une grande partie de ces écoles où il y avait un dynamisme étonnant. J'y ai rencontré des instituts extraordinaires. Vraiment, je me souviens, je vais dire deux noms parce que c'est des gens qui ont laissé aucune trace dans l'histoire de l'institution, alors qu'ils méritaient de le faire. On donne tellement d'exemples d'instituts, tout ça. Frédéric Gautreau, à l'appui. Dans la Vienne, un site extraordinaire, 18 ans de classe unique, une classe extraordinaire, vraiment de grande admiration. Guy Landry, à Feuillade, dans les Charentes, dans les années donc 90-2000, dans une classe unique, des lieux absolument extraordinaires, de réussite humaine et pédagogique, en fait. C'est assez injuste de voir que tous ces acteurs de l'école ont disparu complètement des radars, n'ont laissé aucune trace. Jamais l'institution s'est intéressée à ce qui se passait dans ces écoles-là. Et maintenant, on vous parle de modernité, de modèles techniciens. Je suis un peu en colère là-dessus, parce que c'est de voir l'évolution de ce métier, c'est assez déprimant, en fait. J'ai eu l'impression que les années 90 étaient des années de grande ouverture de l'institution, Et puis, il y a eu un tournant des années 2000 qui correspond peut-être à l'UFM. Et je pense à la prise du pouvoir dans la formation de l'université. Alors bon, je n'ai rien contre l'université, mais une négation du métier, en fait, des gens du métier. Et une méconnaissance des richesses et des pratiques des instituts. Je sais qu'à l'époque, Bernard Collot parlait de praticiens-chercheurs. On était des praticiens-chercheurs, c'est-à-dire qu'on était tous les jours dans nos classes, mais on cherchait des choses collectivement. Mais ça n'avait. Alors, il y avait tous ces mouvements pédagogiques, Freinet, tous les mouvements autour de l'école, les Francas. Enfin, il y avait un vivier, une dynamique, une. Et tout ça, tout d'un coup, était nié par les sciences de l'éducation. Mais je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire que tout ce vivier vivant de praticiens-chercheurs a été asséché complètement par les gens qui savaient. Ça a été toujours l'histoire de l'école rurale. Il y a Sylvie Jouan, qui est universitaire à Montpellier, qui étudie actuellement l'histoire du modèle urbain dans l'école. Alors, il y a un paradoxe incroyable, c'est que ce modèle urbain, il date du 19e siècle, et il a fait tout le 20e siècle, et il était enseigné dans les écoles normales, alors que la réalité des écoles était une réalité en grande majorité rurale, avec dans les classes des différents niveaux, des âges multiples et tout ça. Et alors, c'est incroyable que le modèle urbain, c'est-à-dire un niveau, une classe, était présenté comme un modèle efficace d'avenir moderne, alors que les réalités étaient complètement différentes. Et donc l'institution a toujours été aveugle par rapport aux réalités en milieu rural notamment, et par rapport aux enseignants qui travaillaient dans ces endroits-là. Souvent d'ailleurs, ils débarquaient là-dedans, on ne leur avait jamais appris à travailler avec plusieurs niveaux, et ils inventaient des stratégies, ils inventaient des pédagogies. Le meilleur exemple, c'est Freinet. C'est Freinet, issu de ça, et tout seul, Freinet a inventé ce... enfin, tout seul, avec toute l'équipe, tous les gens qui correspondaient, tout ça, à l'époque. Mais à quelques-uns, ils ont inventé quelque chose. Mais ça a mis beaucoup de temps à être reconnu. Puis maintenant, ça a été mis au musée de la pédagogie. Bon, ça, je pense que ça n'intéresse plus grand monde dans les UFM. Enfin, maintenant, je sais plus, c'est les ESP, on appelle ça les ESP. Alors, ce qui est très grave actuellement, c'est que dans la feuille de route de la ministre, elle l'a dit il y a 2 ans, en 2014, à l'Assemblée nationale, il s'agit de faire disparaître les écoles à une ou deux classes, toutes les écoles à une ou deux classes de France, parce que évidemment, c'est un archaïsme insupportable, et puis qui correspond plus au modèle, c'est même plus le modèle urbain français, au modèle européen, quoi. Je pense que c'est une raison économique. Il faut bien économiser pour rentrer dans les 3% de dette, là. Mais il y a une raison idéologique aussi. Je pense qu'il y a une des raisons aussi, je pense, et je m'en suis aperçu après, à la fin de la carrière, c'est que dans les années 2000, au moment où donc l'université prend le pouvoir dans la formation, ça correspond aussi où finalement il faut piloter le changement de l'école, ce qu'ils appelaient le changement de l'école, quand on parle de changement, enfin, c'est tout, le mot réforme, le mot changement, bon. Il faut le piloter par le haut, ça ne marche pas si on laisse les initiatives se partir d'en bas. Donc il faut piloter par le haut, il y avait une commission de Bruxelles qui s'occupait de ça, donc on va mettre une batterie d'évaluation, on va mettre en place un système numérique de contrôle. Et en même temps, avoir moins d'écoles et des écoles plus concentrées sur le chef de canton ou la ville du coin, c'est plus facile à contrôler, quoi. C'est plus facile à diriger, à mener par le haut. On a un truc intéressant dans le Lot, c'est qu'il y a le Conseil général socialiste, hein, et puis les autorités de l'État célèbrent la création d'une cité scolaire à Luzèche, qui est prévu pour 500 élèves. Alors, cité scolaire, ça veut dire quoi? C'est sur les mêmes lieux, on y a mis, parce qu'elle est, je crois qu'elle est, elle va, je me demande si ça n'a pas commencé, hein. On y a mis l'école maternelle, l'école élémentaire et le collège. Donc, c'est une cité scolaire, on appelle ça cité scolaire, hein, sur les mêmes lieux, en bâtiment voisin, 500 gamins. Bon, alors, il faut savoir qu'actuellement, à l'école élémentaire de Luzèche, il y a 70 élèves. Ils ont prévu une école élémentaire pour 150 élèves. 200 élèves.
Donc ils vont prendre des enfants,
donc, fermeture des villages de tout, aux alentours. Fermeture de toutes les écoles aux alentours. Et c'est présenté comme modèle. Le modèle moderne, bien sûr, avec de belles maquettes d'architectes, déplacement du préfet, du sous-préfet, en fait, et puis de tous les élus. C'est dramatique.
Le 31 décembre 2015, Jean Poli, dans un texte intitulé « Relocaliser l'école », écrivait
« Nous sommes souvent perçus comme des nostalgiques d'une ruralité ou d'une urbanité d'un autre âge et qui ne savent pas s'adapter aux réalités de l'époque. » Nos adversaires et nos faux amis seraient les modernes, et nous, nous serions les archaïques. La question urgentissime du réchauffement climatique, par les mesures qu'elle nous oblige à prendre tôt ou tard, renverse cette dualité. La modernité prend alors un autre visage, celui d'une petite école sans ramassage, ou le moins possible, avec un mélange des âges dans une même classe, des pratiques coopératives, une intégration dans un réseau de territoires, et où tous les temps de l'enfant, avant, pendant et après la classe, sont pensés dans la continuité par l'ensemble des acteurs locaux.
On est sur la logique de la concentration. Et la technicité, qui est une logique, c'est complètement idéologique. Hein, alors, ce qui m'intéressait en parlant de relocaliser l'école, c'est de faire le lien avec la lutte écologique. Alors, dans toute la bagarre qu'il y avait sur la défense des petites écoles, il y a tout un aspect qui est le plus courant, c'est l'aspect de défense du service public. C'est-à-dire que souvent un village va se mobiliser pour défendre son école, les habitants du village, les élus, sur la survie du service public. C'est un aspect très important, mais qui est insuffisant. Parce que c'est toujours une bataille défensive. Ce qui manque dans cette bataille défensive, c'est la promotion de ça. Il y a une richesse de la petite structure, que ce soit au milieu rural ou en milieu urbain, et sur tous les plans, sur le plan agricole, sur le plan commercial, sur le plan même industriel, qui est à mettre en avant. Aujourd'hui, ce qui est moderne, probablement, c'est la petite structure, c'est la petite école, et c'est pas la cité scolaire de l'usage. Et donc, les bagarres défensives sur la défense des services publics apparaissent toujours, et d'ailleurs sont toujours traitées par l'institution, ou par la presse, ou par les médias, comme des bagarres d'arrière-garde, des bagarres défensives. Alors ce qui m'intéressait, enfin, je ne suis pas le seul à m'intéresser à ça, c'est de relier ça à la question de la transition écologique. Alors j'étais très marqué par le livre de Naomi Klein sur sur le capitalisme et
tout peut changer, capitalisme et changement climatique.
Quand on sort de ce livre, on se dit, mais c'est plus qu'une urgence. Toute notre vie quotidienne, toutes nos pratiques militantes, toutes nos pratiques associatives doivent être dictées par ça. On est dans une situation terrible. Et en fait, alors on fait la COP21, mais en fait, il n'y a aucun changement de direction qui est pris. Au contraire, la concentration, que ce soit la ferme aux 1000 vaches, ou sans parler de Notre-Dame-des-Landes, ou alors la cité scolaire de l'Uzèche, va dans un sens tout à fait contraire. La concentration, c'est certainement des bilans carbone beaucoup plus importants, des gâchis financiers, et des effets catastrophiques. Alors, ce qui est très intéressant dans le bouquin de Naomi Klein, c'est qu'elle explique que les meilleurs politiques de transition écologique qui sont en cours sont faites par souvent par des petits pays comme le Danemark et souvent par des petites structures. Elle cite en exemple par exemple les petites éoliennes, alors c'est pas les grandes éoliennes comme chez nous, des communes du Danemark où l'énergie est contrôlée par les habitants d'une commune, d'un village, et c'est ça l'avenir de la transition écologique, c'est ça. Alors ce qui m'intéressait quand j'ai écrit cet article relocaliser l'école, c'est d'employer le mot relocaliser. On relocalise la production, la consommation, les transports, il y a des mouvements de relocalisation en tout cas. Et jamais on pose cette question sur l'école. Que ça soit du côté des enseignants, du côté des syndicats enseignants, du côté du monde enseignant, du monde des discussions sur l'école, ou que ça soit à l'inverse, les mouvements écologiques qui traitent très peu d'école, des questions d'école.
Oh, autrefois les grands-pères avaient tous la mine austère et se gossaient des petits cons, certainement avec raison. Ils portaient portait avec fierté une moustache délavée et devenait tout nitruant quand on leur parlait du bon temps. Et si leur joue rosissait, c'est qu'un bon vin les arrosait et leur donnait leur jeunesse dans un soupçon d'ivresse. Mais aujourd'hui, les grands-pères se donnent un petit peu des airs. Ils font du surf dans les Balkans et ils parlent en verlan. Ils vont dans les boîtes branchées et partent ensemble se trémousser sur des rythmes franchement techno. Ils vont danser le disco. Heureusement, toi, grand-père, tu as toujours ta mine austère et tu te gosses des petits cons. Et tu as bien raison. Et tu portes avec fierté une moustache délavée et tu deviens tonitruant quand on te parle du bon temps. Et si tes joues sont encore roses, c'est qu'un bon vin les arrose. Mais méfie-toi des jeunes premiers, car dans quelques années, quand ils seront des grands-pères, à leur tour ils feront les fiers. Ils feront du skate, du roller, et se prendront pour des rappeurs. Ils fumeront l'herbe en cachette qu'ils commanderont sur internet pour s'endormir en planant, en comptant les éléphants. Hey, mais moi quand je serai grand-père, je voudrais avoir ta mine austère et me gosser des petits cons qui diront que je perds la raison. Et je porterai avec fierté une moustache délavée et deviendrai tonitruant quand on me parlera ben de maintenant. Et si mes joues sont déjà roses, c'est qu'un bon vin les arrose. Tu vois, je suis le bon chemin, juste derrière le tien.
Dissonance
sur Radio Centrafrique.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la stratégie du gouvernement, donc de fermeture des petites écoles, se fait en échelonnant les départements, dans les conventions.
C'est fait, fait exprès, bien sûr.
Alors ça a commencé par Midi-Pyrénées et bizarrement pas par l'Aveyron. Ça a commencé dans le Cantal avant, il y a l'exemple du Cantal, mais c'est arrivé en Midi-Pyrénées en 2014, c'est passé quasiment inaperçu sauf dans le Lot. Et par contre, en Midi-Pyrénées, je crois que ce n'est pas arrivé dans l'Aveyron.
C'est en train d'arriver.
Voilà. Ils se sont appuyés. C'est ça que il fallait court-circuiter les élus locaux. Voilà. Et donc, il fallait s'appuyer sur les grands élus, ce qui s'appelait les grands élus députés, sénateurs. Alors, pourquoi Midi-Pyrénées? Parce que les grands élus sont du côté du pouvoir, du gouvernement, et donc c'était plus facile. Et donc, en fait, c'est passé inaperçu quasiment tous les départements. Donc, ça consiste en quoi? Faire des conventions de restructuration scolaire. Ce qui s'appelle le remaillage. Donc en fait, c'est fermer les petites écoles pour reconcentrer sur des écoles plus importantes, modèle donc la cité scolaire de l'Usèche. Il n'y a pas beaucoup d'arguments, justement. On voit tout de suite que le cœur, c'est pour faire des économies. En fait, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à argumenter parce que toutes les études sur les petites écoles montrent que, en tout cas jusqu'au bac, plus les enfants issus des petites structures, plus la petite structure d'origine est petite, meilleurs sont les résultats. Ou en tout cas, au moins aussi bons. Il faut voir les travaux de l'Observatoire sur l'école rurale qui ont étudié le parcours de gamins depuis la maternelle, de 2000 ou 3000 gamins depuis la maternelle jusqu'au bac. Bon, donc en fait, ils ont très peu d'arguments pédagogiques. C'est un habillage moderniste, en fait, moderniste, reposant sur des a priori qu'on peut avoir sur le monde rural, sur l'école rurale, qui sont, à mon avis, liés aux images un peu du rural archaïque. Et en fait, il y a une vision des urbains sur le rural qui est une vision fausse, passéiste. Voilà. Donc le boulot qu'on a à faire, nous, c'est un boulot justement de montrer que c'est pas seulement la question du rural, c'est ce qui a pu vivre dans le rural, c'est-à-dire en termes de petites structures, qui facilitent aussi la prise de décision par la population. C'est un modèle de société, qui pourrait très très bien d'ailleurs venir en ville, notamment dans la vie de quartier. C'est-à-dire, c'est une vision idéologique. Donc avec, à mon avis, assez peu d'arguments de fond, en fait. Ils sont faibles sur le fond. Hein.
Quand tu dis le boulot qu'on a à faire, nous, c'est qui? C'est pas que les enseignants.
Oui, c'est ça. C'est arrivé. Je sais pas. Je crois que dans un article, je reprends la fameuse phrase: les questions de l'école sont trop sérieuses pour les laisser au seul monde enseignant. Et c'est vrai. Il faudrait que les mouvements qui travaillent sur la transition écologique se préoccupent d'école, parce que la question de l'école ne doit pas échapper à ça. Et en même temps, les mouvements qui sont venus de l'école se préoccupent de transition écologique. Et donc, c'est à croiser. C'est pour ça que je parlais de la Confédération paysanne, qui est pas mal en avance sur ces questions-là. Tous les mouvements écologiques, mais je connais pas bien, donc Alternativa, enfin tous ces gens-là. Mais c'est très difficile de leur faire d'arriver à discuter d'école avec eux. L'école est restée un domaine assez fermé, en fait, de spécialistes.
C'est un piège.
C'est un piège.
Ouais. Donc, les gens qui ont lancé ce mouvement qu'on pourrait appeler relocaliser l'école se retrouvent au sein d'une fédération nationale des écoles rurales.
Oui, alors il y a ça, mais c'est très faible. Hein. Bon, il y a beaucoup moins de gens que dans les années 90. Le paradoxe, c'est que quand il y a eu le mouvement dans le Lot, c'était très suivi par le refus de la convention, hein, de restructuration. C'était très suivi par les élus, qui ne voulaient pas voir leur école disparaître, par beaucoup de parents d'élèves. Il y avait très peu d'enseignants. Le milieu enseignant, globalement, a complètement intériorisé le fait que la concentration est bénéfique. Souvent, ils n'ont pas été formés, comme nous tous, on n'avait jamais été. Ils ont été formés au modèle de ville, en fait. Et c'est presque une catastrophe quand on arrive dans une école, dans une classe, là où il y a 2, 3, 4 niveaux, on ne sait pas faire. Donc, en fait, on a peur de ça. Les jeunes ont peur de ça. Et il n'y a pas ce que nous, on a pu connaître, où il n'y a plus beaucoup des équipes d'enseignants qui étaient prêtes à y aller parce que ça les intéressait. Voilà, parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose de à faire, de moderne, de pédagogiquement intéressant dans ces choses-là. Alors en fait, les choses sont très faibles. Alors on a créé un petit réseau qui s'appelle, avec la Fédération nationale pour l'école rurale, La petite école est une chance. C'est intéressant de dire la petite école est une chance. C'est-à-dire que ça le montre sur l'avenir, ça projette sur l'avenir, et puis ça parle de petite école, et pas seulement d'école rurale. Dans un quartier, pourquoi pas mettre des classes uniques en bas des immeubles d'une cité parisienne ou de banlieue? Pourquoi pas? Ça s'est fait. Ça s'est fait à Montpellier, ça s'est fait à Grenoble, je crois. Voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à faire en ville aussi.
Et ce que vous avez lancé, ce que vous avez commencé à faire dans le Lot, ça a porté ses fruits?
La convention a été signée par les grands élus, malgré les oppositions, un peu honteusement. Et une commission alors il y a une commission de pilotage, mais qui est un petit peu, je ne sais pas très bien comment ça se passe, mais j'ai l'impression que c'est un peu bidon de toute façon, parce que dans la convention, on signe la restructuration. Il y a pas de, c'est un entonnoir, en fait. Donc les conclusions sont, on demande aux gens de restructurer, donc on demande simplement à la commission de restructurer le mieux possible. Voilà. Bon. Il y a une grosse résistance dans le Haut-Ségala. Le Haut-Ségala, c'est une partie du Lot qui touche au Cantal, près de la Tronquière et tout ça, alors qui a obtenu une victoire, c'est-à-dire un moratoire sur la fermeture de. À terme, il y a 4 sites scolaires, il ne doit en rester qu'un.
Moratoire, donc, moratoire
de 2 ans. Voilà. La moratoire a été obtenue parce que pendant 20 jours et 20 nuits, les habitants, les élus, ont dormi devant la sous-préfecture de Figeac. Au moment où ils ont obtenu les 2 ans de sursis, il y a eu une réflexion sur comment on pourrait justement améliorer la répartition des 4 sites. Alors, ce qui est très intéressant dans ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fédéré plusieurs réunions avec les parents autour d'ateliers où les gens ont pu s'exprimer, où les choses ont beaucoup avancé, où le multi-âge est apparu comme une solution, comme la solution de répartition pour leurs écoles. Et donc les parents, il y a eu un vote, hein, et les parents ont proposé la création de 2 classes uniques, ils appellent ça classe multi-âge, du CP au CM2, sur 2 sites, et puis les 2 autres sites restaient en RPI. Voilà, avec un choix aussi, pour les parents qui craignent le multi-âge, de pouvoir mettre leurs enfants, choisir le lieu où mettre leurs enfants. Alors ce qui est à la fois intéressant, parce que ça ouvre, on offre un choix aux parents, mais ce qui est à la fois contestable, parce que ce qui est intéressant dans la relocalisation, c'est de plus trimballer les enfants, en fait, c'est que les enfants, que l'école des enfants soit sur leur lieu de vie. Et là, en fait, effectivement, ça donne une possibilité de déplacement. Bon, mais c'est un choix qu'ils ont fait, qui était vraiment très très intéressant par rapport à leur situation. Et ce choix a été refusé par l'inspecteur d'académie qui préconise l'application des classes de cycle avant de pouvoir fermer ces sites dans 2 ans quand tout sera calmé. Donc en fait, ce qui est vraiment très intéressant dans le Ségala, c'est le processus de prise de conscience, de discussion de la population, déjà de bagarre au départ, parce que 20 jours, 20 jours, 20 nuits tenir, ils étaient nombreux à se relayer, et puis voilà, bon, alors... On arrive dans une situation vraiment très très difficile parce que là on a une population qui essaye de trouver des solutions qui correspondent à leur territoire et l'institution refuse parce qu'elle est de plus en plus elle veut pas d'abord ouvrir de précédent sans doute sur la création de classes uniques. Imagine des classes uniques en 2016 en France qui se recréent, ce serait extraordinaire. Et donc elle est de plus en plus crispée sur son autoritarisme. Ce qui explique, ça c'est un autre débat qui s'ouvre. Qui peut s'ouvrir sur que de plus en plus de gens qui cherchent un petit peu des pédagogies innovantes se retournent vers la création d'écoles alternatives, ce qui existe dans le Lot en parallèle. On va arriver à une situation finalement des pays libéraux, hein, une école publique très très crispée, très autoritaire, où on retrouvera. Les enfants du peuple en fait, oui, et puis les parents qui pourront choisir créeront leur école privée, alternative ou pas, ou religieuse à côté, ce qui est une catastrophe pour l'école de la République, c'est une catastrophe. Mais on comprend, en même temps moi je comprends les parents qui sont partis sur des démarches d'école alternative parce qu'il n'y a plus d'issue.
Les mots ne peuvent pas dire les choses, les mots qu'on pose à contre-temps, comme les mouettes ont remonté le fleuve à contre-vent. Les mots censés avoir un sens, les mots passés dans le miroir, comme les barques noyées par le temps au fond d'un étang noir. Comme on a dit à Salamanque, à Cap-Canaille dans les Calanques, et sur la Loire, de Savenière à Béhuard, à Joliette, à Vérone, à Clochepied sur les bords de Garonne. Les mots qui ne veulent vraiment pas nous dire grand-chose, les mots qu'on ose à l'aveuglette, comme la flamme vacillant dans le verre des lampes tempêtes. Les mots transis, les mots saisis dans le glacis de la mémoire, comme tous les toutes mirlailles des amours blanches de forêt noire. En un mot commençant, entre nous soit dit en passant, je suis désolé, embrassez qui vous voulez, il faisait beau hier, à cheval sur les genoux de grand-mère. Les mots guirlandes, les mots qui vendent, les mots qui scandent, les mots qui sous-entendent et prétendent nous dire les choses.
Les petites écoles dont tu as si bien dépeint le quotidien à travers un livre qui s'appelle « L'année des 40 jeudis », édité aux éditions Modilon, ce sont les chroniques de Maurice Campagnolo.
Alors, ce n'est pas un livre au départ, ce sont des chroniques que j'ai envoyées de ma classe de Rey-Ruvigne, que j'ai envoyées tous les jeudis. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle « L'année des 40 jeudis ». Alors, au début, j'avais une cinquantaine d'abonnés, j'ai fini avec 200, 300 abonnés. Et alors, bon, les éditions Modilon, c'est une petite maison d'édition d'anciens sites freinés. Ils ont publié et bon, alors c'est un livre qui n'a pas été justement le fait d'avoir une petite maison d'édition, ça n'a pas été c'est un livre qui a connu un certain succès en fait, étonnamment par rapport à la
il est très très bien écrit
à la diffusion des éditions Odilon. D'ailleurs je peux saluer Jackie Varenne que tu connais peut-être, qui est avec son frère je crois fondateur des éditions Odilon. Voilà. Jackie, si tu nous entends. Alors en fait, il y a cette idée, je voulais écrire, quand j'ai écrit ces chroniques, c'était parler de l'école, comme je la lisais jamais, en fait. Une école, quand on est instite ou quand on est élève, c'est des sensations, c'est des odeurs, c'est des sentiments,
c'est des bruits.
Et en fait, c'est ça que j'ai voulu rassembler de façon poétique, en fait. C'est là où, j'ai parlé tout à l'heure des sciences d'éducation, c'est tellement réducteur de parler des sciences d'éducation. Est-ce que ça existe vraiment, les sciences d'éducation? Est-ce que le rapport de l'école, le rapport de l'éducation, de l'instruction, on va prendre ça en même temps, n'est pas un rapport humain avant tout, quoi? Est-ce qu'il y a vraiment des sciences d'éducation? Est-ce qu'en parlant de sciences d'éducation, on passe pas complètement à côté de toutes ces choses qui sont presque insaisissables, mais qu'on a connues élèves et qu'on connaît comme enseignants? Voilà. Donc c'est un petit peu ça que je voulais retracer. Et puis aussi remettre à l'honneur tous ces instits. Voilà. Tous ces instits dont on a parlé. Je pense à Aubry. On peut parler d'Aubry, parce que en fait, Aubry, en fait, plus c'est son vrai nom, mais je ne sais pas s'il était comme ça. C'était quand j'étais jeune instit, c'était un instit de classe unique dans les Yvelines. Parce que dans les Yvelines, il y avait des classes uniques. Il savait tout. Tout ce qu'on devait savoir. Et surtout, tout ce qui reliait ce qu'on voyait là devant soi comme une évidence ou comme un mystère, avec ce qui se trouvait dans les livres, dans les musées, à l'institut. Des ruines du château, il disait le nom des dynasties et les techniques des bâtisseurs. De cette orchidée au bord du chemin, il savait les ruses raffinées pour attirer la semence. Du ruisseau, il dessinait les détours dans les profondeurs de la terre. Il parlait de la foudre tombée sur la grange, du cerf-volant dans la brise de mai, de la scierie du père Marot, de la vache qui veinait, de Ronsard en Saint-Esprit, de Condorcet au cœur de la tourmente et de Michelet et Jules au plus haut des siècles. C'est l'idée de l'instit, en fait, dont je parlais au début, c'est-à-dire tout est là, quoi. Tout est là devant soi. Il n'y a qu'à le cueillir, la connaissance est là. Et quel bizarre détour de passer une vidéo dans la salle informatique de la grande école, alors qu'on a tout devant soi. Tout.
Jean Poli sur Radio Centrafrique.
S'il est défenseur des petites écoles, il est aussi l'un des premiers directeurs d'école à s'être élevé contre le fichage du monde de l'enfance avec la mise au pas numérique de l'école.
En 2008, on était directeur d'école tous les deux et on reçoit l'ordre, on peut dire, d'inscrire nos enfants sur une base numérique qui s'appelait base élève, donc d'immatriculation, en fait, de création d'une matriculation qui corresponde à chacun de nos élèves. Sur cette base numérique. Pour moi, c'était inadmissible. Inadmissible qu'on puisse immatriculer des enfants dans un système comme ça. Alors déjà, c'est contestable pour les adultes, mais pour des enfants, c'était d'autant plus révoltant. Enfin, je trouvais que c'était presque viscéral, en fait. Ça renvoie tellement de choses de contrôle de population et de contrôle de l'enfance qui sont terribles, toute cette innocence de l'enfance là qui disparaît tout d'un coup parce que on va les faire rentrer sur une base. Alors quoi sert une base comme ça? On le voit d'ailleurs dans l'évolution, c'est le suivi, en fait, la traçabilité du suivi scolaire d'un enfant. C'est-à-dire que dans cette base, même si on a enlevé des choses et tout ça, il y a cette idée que on va pouvoir suivre la trace d'un enfant, puis d'un élève, puis des adultes, tout au long de leur vie, sur des données numériques. Alors, c'est très grave, c'est très très grave, ce qui a eu lieu est très très grave, et étonnamment, avec très très peu de réactions, on a été à l'époque une centaine peut-être du directeur d'école à refuser, il y a eu beaucoup de répression, il y a des collègues qui ont été démis de leurs fonctions. J'ai eu plusieurs retraits de salaire d'une journée qui correspondaient à rien. Bon, j'ai réussi à ne pas le faire parce que je partais à la retraite, mais la plupart des collègues qui ont refusé, finalement, ont dû se soumettre ou se démettre. Voilà. Alors, ce qui m'a étonné quand même, c'est que c'est une atteinte à la personne. Et que en fait, le refus a été porté par des objecteurs de conscience, mais qui auraient dû être beaucoup plus nombreux. Et alors qui était marqué très à gauche ou dans les milieux libertaires, mais ça aurait dû être ça aurait dû être une réaction, notamment, je pensais au milieu chrétien, à tous ceux pour qui la personne humaine est importante, quoi. Enfin, c'était étonnant de voir le peu de réaction qu'il y a eu, l'aveuglement, l'inconscience à la fois des enseignants, de beaucoup de parents, par rapport à cette catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Alors, à l'époque, j'utilisais souvent cette image. Quand le nucléaire, dans les années 60, est apparu comme une solution, il y avait très très peu de gens qui refusaient le nucléaire et qui prenaient pas conscience des dangers du nucléaire. Et la société numérique, en fait, on a très peu de monde qui prend conscience de la société numérique. Et dans 20 ans, dans 30 ans, on dira peut-être que ces pionniers avaient raison, quoi. Et c'est probable. Parce qu'il n'y a pas que la base d'élèves, il y a toute la bataille pour le contrôle, les grosses batailles, d'ailleurs le contrôle des tuyaux, je ne connais pas bien, mais par les grandes sociétés qui font Facebook, Google. Enfin bon, il y a des choses incroyables qui se passent. Et alors il y a une inconscience, une espèce de béatitude par rapport à la modernité, à ce qui apparaît comme notre avenir obligé, qui est quand même incroyable. Je pense qu'on va être utile parce qu'il a mis le doigt là-dessus. N'empêche que actuellement tous les enfants de la maternelle tous les élèves de la maternelle jusqu'à l'université et puis après sont repérables, traçables sur des bases numériques. Alors je pense que je pense qu'on peut faire un rapprochement entre l'histoire de la base élève et la disparition des petites écoles. D'ailleurs, c'est un rapprochement qu'il y a avec l'agriculture, entre le puçage des animaux, notamment dans l'élevage, et la disparition des petites exploitations. C'est-à-dire que c'est un petit peu un désaccord que j'avais avec certains libertaires là-dessus. Je pense que les raisons, en fait, sont des raisons. Les technocrates qui mettent ça en place, c'est pas un complot des technocrates pour contrôler la population, un complot totalitaire, tout ça. C'est en fait des logiques de gestion. Et en fait, évidemment, effectivement, une base élève qui marche, c'est une facilité de gestion pour la machine institutionnelle. Et en même temps, quand ils disent gestion, ils disent aussi contrôle. Donc la traçabilité des enfants, le fait que le livret scolaire numérique peut les suivre beaucoup plus facilement qu'un livret scolaire qui est dans une armoire. Et donc le pilote, ça correspond aussi à cette idée de pilotage par le haut. Et donc on est sur des mêmes logiques à la fois de rentabilité, de gestion et de contrôle qu'on retrouve dans les deux débats sur les petites écoles et sur la question de la base élève. Enfin, c'est pas un hasard d'ailleurs que dans les refus de bas élèves, on avait aussi beaucoup de défenseurs des petites écoles. C'est intéressant dans un parcours de vie de pas seulement parler des choses du social, fois au public ou militante ou tout ça. Il y a aussi une part privée qui apparaît pas et qui est fondamentale, C'est un petit peu ce que je disais sur les sciences d'éducation tout à l'heure. Elles ne peuvent pas tout enfermer. Une vie publique ne peut pas tout enfermer. On ne peut pas enfermer une personne. Il y a plein de choses. Donc il y a une chose intime qui est l'écriture, qui est la chanson, auquel je tiens beaucoup. C'est difficile d'en parler, c'est quelque chose d'intime. Mais je trouve ça intéressant l'idée que dans une vie, quelquefois c'est bien de se mettre à côté. J'avais fait une chanson qui s'appelait Chant secret. Le chant secret. Et le chant secret, c'est souvent le chant CHAMP. Il y a des lieux-dits qui portent ce nom-là. Et l'idée de ces lieux-dits, en fait, c'est le chant à l'écart, en fait. Le chant un peu qu'on a oublié. Et dans toutes nos vies, on a une vie à l'écart. Des certitudes, et puis des discours, et puis de notre vie publique, en fait. Voilà. Donc, c'est une part. Je pense pas que ce soit une recherche spirituelle ou religieuse, c'est simplement de penser que c'est compliqué une vie. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas rentrer dans la raison, il y a des données qui nous échappent. Et heureusement, c'est bien. Ça permet de rêver, ça permet de. La poésie, c'est ça en fait. La poésie, c'est ouvrir une fenêtre sur autre chose, quoi. Bon, c'est. Voilà. Donc, c'est peut-être justement en étant à la retraite, en quittant l'école, en étant beaucoup au jardin, en marchant, peut-être ce qui maintenant le plus important dans ma vie, parce que dans le luxe de la retraite, le luxe de l'oisiveté, c'est de pouvoir prendre du temps à l'écart justement et de ne pas être pris par le...
Oui, le mettre dans le guidon tout le temps.
Oui, le quotidien. Ouais, le quotidien. Ouais. Quand j'ai fini ma carrière, j'essayais de ne pas être trop aigri, mais j'étais malheureux de voir l'évolution du système et en même temps heureux de rencontrer des jeunes instits qui échappaient au formatage et en fait étaient abordés les métiers, alors peut-être sans le savoir, sans s'en rendre compte, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un rapport humain avant tout. Le rapport pédagogique, c'est un rapport humain entre un adulte et des enfants, ou plusieurs adultes et plusieurs enfants. Enfin. Et ça existera toujours, je pense. Malgré tout le discours sur la technicité, sur le professionnalisme, c'est extraordinaire, ça compte, qu'on a commencé à parler de professionnalisme comme si les enseignants avant n'étaient pas des professionnels. Il fallait qu'on devienne professionnel, il fallait qu'on devienne des techniciens, c'était extraordinaire ça. C'est pour nous mieux dire qu'on devenait des agents de quelque chose qui se décidait autre part que nous, on n'était plus acteurs. Et donc en fait, c'est l'espérance de ça, c'est qu'on ne pourra pas échapper à ce que l'acte éducatif soit un acte humain. Et puis voilà, ça nous renvoie aussi à question qu'on abordait à la fin, question être à l'écart, quoi. Il y a des choses qui échappent à tous les discours rationnels, quoi. Puis on n'est pas forcé d'expliquer, c'est comme ça. Puis c'est assez beau.
Merci à Jean Poli. Merci à Elsa pour sa chronique politique. Cette émission est à réécouter en podcast sur le site internet de Radio Sainte-Afrique en allant sur la page de l'émission Dissonance. Sur cette page, vous y trouverez des liens concernant Jean Poli et son actualité. On y trouvera aussi des liens qui renverront sur ses textes, ses écrits, ses chansons, ses poèmes. Y seront aussi indiquées les références des textes et musiques entendues. Cette émission est à réécouter sur Radio Sainte-Afrique lundi 26 septembre à 19h et mercredi 28 septembre à 9h. Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.
Je me souviens plus, ma mère, sur les planches au front de mer, ni des robes qu'elle a portées, dans le vent sur la jetée. Je ne sais plus que j'étais, marin d'eau douce à la noix, elle de peur que je me noie, elle me tenait fort, ma mère. Je me souviens plus du tout, les gamins qui vont partout, dans les pentes et dans les vignes de la campagne angevine. Je ne sais plus la ravine où nous allions tous les trois, une reine pour deux rois. Je me souviens plus du tout. Mets un nœud à ton mouchoir, les petits cailloux blancs dans le noir. Passe un coup sur ton miroir, il y a des doubles fonds dans tes tiroirs. J'aimerais savoir. Je me souviens plus si c'est en vacances ou au lycée, une fille et un garçon, entre fougères et clissons. Je ne sais plus la chanson, celle de mes premiers émois, les secrets qui coulent en moi. Je me souviens plus si c'est. Je me souviens plus ce corps, celui que j'habite encore, cette chose qui m'enfouit, m'enveloppe et me poursuit. Je ne sais plus si j'y suis, à mon aise ou à l'endroit, à l'envers ou à l'étroit. Je me souviens plus ce corps. Mets un nœud à ton mouchoir, des petits cailloux blancs dans le noir. Passe un coup sur ton miroir, il y a des doubles fonds dans tes tiroirs. J'aimerais savoir. Je me souviens plus son ombre, au jardin de l'outre-tombe. Je suis celui qui trottine dans ses pas et qui s'obstine. Je ne sais plus l'églantine qui pique le bout des doigts dans ce jardin qui verdoie. je me souviens plus son ombre. Mets un nœud à ton mouchoir, des petits cailloux blancs dans le noir. Passe un coup sur ton miroir, des doubles fonds dans tes tiroirs. J'aimerais savoir. Je me souviens plus très bien de pourquoi ni de combien j'ai troqué des souvenirs pour un semblant d'avenir. Je ne sais plus devenir. J'aime vivre à bout portant d'eau douce et de l'air du temps. Je me souviens plus très bien. Je ne sais plus devenir. J'aime vivre à bout portant d'eau douce et de l'air du temps.